RMC Motors avec Motorsport TV. Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez seulement maintenant, on a parlé de sport mécanique, vous le savez, dans les grandes gueules du sport avec JC il y a un instant, mais on va beaucoup parler de Formule 1 tout de suite avec l'excellent, le sémillant Adrien Tambay.
Salut, salut Jean-Luc, salut à tous.
Et le non moins pétillant Louis Amar du côté de Bakou sur son château médiéval. Salut Louis.
Salut messieurs.
Salut Louis. Au milieu des souffles, et puis je vous l'ai dit, on parlera effectivement tout à l'heure du WRC notamment. Et donc vous l'avez compris, comme on entre dans Motors et qu'on parle de Formule 1, c'est le tour de chauffe.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et voilà, plus que le tour de chauffe, même puisqu'il s'agit de revenir sur les qualifications de ce Grand Prix de Formule 1, quatrième de la saison. Alors Louis, avec toi tout de suite, un troisième pôle d'affilée de Sébastien Vettel. Alors, il a fallu pour cela évidemment que son équipier se rate un peu, mais Vettel, on peut dire qu'en qualif, là, il a trouvé une vélocité exceptionnelle depuis le début de la saison.
À la fois Sébastien Vettel et la Ferrari, parce que tu l'as dit, il a fallu une petite erreur, une petite faute à cause d'une rafale de vent de Kimi Raikkonen pour que la première ligne ne soit pas encore comme lors des deux Grands Prix précédents occupés par les deux pilotes de la Scuderia. C'est la première fois que Sébastien Vettel enchaîne trois pole positions depuis la saison 2013 où il avait marché sur le championnat. Et plus impressionnant encore, c'est la première fois que la Scuderia signe trois pôles d'affilée depuis 10 ans. Il faut remonter à la saison 2008 pour trouver trace d'un tel exploit.
Effectivement, tu as raison de recadrer dans le contexte, Adrien. Les Ferrari, effectivement, performante, ça on le voit bien, ces pilotes qui sont au top. Raikkonen va évidemment avoir une revanche à prendre, même si on le sait, c'est quand même un petit peu, il y a de l'aspiration, hein, il y a du DRS, il y a vraiment deux parties dans ce circuit. En tout cas, pour dépasser, il faut un très gros cœur là-bas, et puis il y aura du vent, hein.
Très gros cœur, et puis rappelons quand même qu'il y a deux Mercedes à dépasser sur la piste devant avec un très très bon moteur encore, même si l'écart a été réduit avec la Ferrari, mais une course sûrement pour Raikkonen un peu différente de celle de Sébastien Vettel. Rappelons qu'il va s'élancer lui en ultra soft. Ça va être un des seuls pilotes devant à s'élancer avec un pneumatique différent, donc peut-être une stratégie différente à adopter chez Ferrari, ou en tout cas un pari à faire. Imaginons qu'il y ait un safety car dans les premiers tours, c'est une possibilité, surtout sur ce circuit routier urbain.
Ça arrive souvent.
Exactement, et peut-être à ce moment-là que Kimi Raikkonen pourra s'arrêter au stand et passer un train de pneus soft et faire qu'un seul arrêt, par exemple. Toto Wolff en parlait et était inquiet de ça. Donc voilà, pour Ferrari, il y a deux cartouches vraiment différentes à jouer. Ils auraient pu avoir les deux voitures devant, et malheureusement pour Kimi Raikkonen, il y a eu une petite rafale, on dira que c'est ça, une petite rafale dans le dernier virage et qui lui a coûté la pole.
Effectivement, ça lui a coûté l'épaule. On va écouter l'homme qui a signé la 53e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1, la 3e de la saison, deux rangs, nous vous l'avons dit, c'est le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, au micro de Louis Amar.
On avait une chance aujourd'hui et on l'a saisie. Je me suis senti très bien malgré une petite erreur sur ma deuxième tentative qui fait que je ne suis pas entièrement satisfait. Mais encore une fois, globalement, la voiture était très performante. Elle ne cessait de s'améliorer, ce qui me donnait énormément de confiance. Et sur une piste comme celle-ci où tout se joue à l'instinct, au feeling, c'est ça qui fait la différence.
Bon, on l'avait bien dit, hein, Louis, comme ça ne marchait pas trop fort vendredi pour Sébastien Vettel, certains se posaient déjà des questions. Nous, on était confiants, on va dire globalement, en disant, rassurez-vous, il va sortir du bois au bon moment. C'est ce qu'il a fait.
Exactement. Il s'est réveillé le samedi, Sébastien Vettel. Il avait déjà signé le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres hier matin, avant donc de parfaitement maîtriser une séance qualificative qui a été à de nombreuses reprises perturbée par des petites fautes de pilote, par quelques drapeaux jaunes intempestifs. Et ça va être ça, le principal écueil en course tout à l'heure, réussir à se faufiler entre les problèmes que devraient rencontrer beaucoup de pilotes, parce que cette piste est extrêmement piégeuse. Et puis, beaucoup vont parler du vent. Franchement, ça souffle très très fort depuis ce matin ici à Bakou. Ouais. Et quand on sait le degré de précision aérodynamique de ces monoplaces, ça va avoir une incidence, d'autant plus que le vent souffle parfois latéralement, parfois de face, parfois de dos, avec des rafales très imprévisibles. Et puis que dans la vieille ville de Bakou, le vent s'engouffre entre les bâtiments, ça fait des espèces de couloirs qui en renforcent la puissance. Et évidemment, c'est d'autant plus tricky, piégeux, comme disent les pilotes.
Et oui, et c'est la question que je vais te poser. Évidemment, Adrien, toi qui as eu, je l'imagine, dans ta carrière, l'opportunité, ou la malchance plutôt, de devoir pouvoir piloter dans des conditions atmosphériques et notamment de vent délicates, vraiment ça peut perturber ça un pilote de manière importante.
Comme le disait Louis, effectivement, plus les voitures sont pointues aérodynamiquement, plus elles sont sur un fil, plus les performances sont élevées dans les virages rapides et plus la voiture est clouée au sol, plus le vent et les rafales ont un effet sur le comportement de la voiture. Et ce qui est le plus difficile à gérer, c'est qu'on a des repères, on est au maximum des performances de la voiture tour après tour, mais le problème c'est quand le vent change et quand tout d'un coup on se prend une rafale ou qu'il y a moins de vent que le tour d'avant, ou le vent est dans une autre direction, et ben tout simplement, si on était à la limite le tour d'avant avec du vent de face, et ben on se retrouve avec du vent dans le dos, c'est plus les mêmes repères, et on fait une erreur, et c'est le cas, enfin c'est ce qui s'est passé a priori pour Kimi Raikkonen. Il a freiné plus ou moins au bon endroit, mais il est rentré dans ce dernier virage et effectivement il y a eu une rafale, il a perdu l'arrière de sa monoplace, et forcément c'est un challenge de plus, mais encore une fois c'est pareil pour tout le monde,
c'est pareil pour tout le monde.
Et ouais, peut-être que ça fait ressortir les talents d'équilibriste de certains.
Et oui, puis ça vient perturber un peu l'ordre établi, on a vu à plusieurs reprises, hein. Il suffit que les conditions météo changent, que les conditions d'adhérence changent, ça influe sur la Formule 1. On rappelle qu'il y a deux zones de DRS sur ce tracé de Bakou, on y reviendra, et 20 courbes, ce qui est quand même assez énorme. Alors on vous l'a dit, sur la première ligne de la grille de départ, ce ne seront pas deux Ferrari, puisque Kimi Raikkonen a eu sa monoplace déséquilibrée. C'est un certain Lewis Hamilton qui revient aux affaires, même si Bernie Ecclestone, on va en parler après, s'était permis une petite pique à son égard. On l'écoute, le lui aussi quadruple champion du monde britannique au volant d'une voiture allemande.
My hunger to win the championship is as strong as it's ever been, regardless of what people may say.
Ma volonté de gagner ce championnat est plus forte que jamais, quoi qu'on en dise. Moi, je vous le dis, j'ai faim. C'est vrai qu'on a eu du mal sur les dernières courses, et j'essaye de mobiliser tout le monde, de rester travailler tard avec l'équipe et de poser aux ingénieurs les questions qui fâchent pour comprendre et avancer. Et je pense qu'on a progressé entre les essais et la qualification, même si ce n'est pas encore suffisant. Donc nous devons continuer à travailler pour nous améliorer sur les prochaines courses.
So we've got to keep working for some improvements moving forward in the next races.
Voilà, donc c'était Lewis Hamilton, micro de Louis Hamar. Lewis Hamilton, je l'évoquais rapidement. Louis, il a été un peu piqué au vif peut-être par Bernie Ecclestone, qui n'en rate pas une, hein. Comme dirait Toto Wolff, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est la grenade. Il lance une grenade dans la pièce, il referme la porte, il voit le résultat. Et il a dit, oui Lewis Hamilton, bon, il a l'air un peu moins motivé qu'il a été dans le passé.
Et Lewis Hamilton lui a répondu, d'ailleurs, vous l'avez entendu, il dit, quoi qu'on en dise, évidemment, cette pique était directement destinée à Bernie Ecclestone, même s'il n'a pas cité le nom de son compatriote. Lewis Hamilton, en tout cas, il a tenu à soigner la forme. Vous savez qu'on a beaucoup parlé, comme d'habitude, entre deux grands prix, de son escapade au festival de Coachella, où il s'est affiché sur les réseaux sociaux le week-end dernier. Eh bien, ce week-end, il a tenu à montrer son implication totale. Il est resté très très tard sur le circuit de Bakou vendredi. Plus après 23 heures, il était encore en réunion avec ses ingénieurs. C'est vrai que vendredi, ça n'avait pas fonctionné pour lui. Il avait terminé quatrième de la première séance d'essai, cinquième de la deuxième. Il fallait un réveil, un rebond. Et hier, même s'il n'a pas réussi à signer la pole position, on a senti quand même une nette amélioration pour Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes.
Eh oui, une 41-677, c'est le chrono de Lewis Hamilton au volant de la Mercedes, à comparer à celui de Sébastien Vettel, le poleman, une 41-498. Et on va y arriver maintenant à celui de son équipier, Valtteri Bottas, une 41-837. Tu me vois venir, Adrien, évidemment. Est-ce que Bottas pourra tirer son épingle du jeu? On rappelle que l'an dernier, il avait arraché la deuxième place sur le podium à un certain Lance Stroll, vraiment dans les derniers mètres.
Je pense que Valtteri apprécie ce genre de circuit. C'est un pilote à grand cœur, si on va pas dire autre chose.
Un gros courage.
et effectivement, là, hier en qualification, les deux pilotes Mercedes sont les deux à avoir tiré vraiment le maximum de leur monoplace. Rappelons que les deux pilotes Ferrari, eux, ont tous les deux fait des erreurs dans le dernier run en pneu neuf. Et alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont fait plus ou moins le tour parfait, le tour qui vraiment nous montre le potentiel de la Mercedes, un peu en deçà de celui de la Ferrari. Maintenant, ça va être dans l'utilisation des pneumatiques, dans le management de course, dans la stratégie, et puis le départ, et éventuellement les circonstances de course qu'on aura forcément. En tout cas, elles seront peut-être un peu spéciales à Bakou, parce que c'est un circuit en ville et compliqué pour les pilotes.
Absolument, elles le seront certainement, Adrien, puisqu'il y a deux zones de DRS, on vous l'a dit, de très grandes lignes droites, on atteint des vitesses qui peuvent dépasser les 350 km/h. Je crois que c'est même officieusement là qu'on a atteint 378 km/h. On va écouter Valtteri Bottas, justement, le deuxième homme de chez Mercedes, qui partira de la deuxième ligne avec son troisième temps. C'est au micro de Louis Amar.
Je crois que si on regarde bien, on est quand même mieux qu'hier. Les deux premières séances d'essai ont été compliquées, on était un peu perdus et l'équipe a beaucoup travaillé dans la nuit de vendredi à samedi et ce travail a porté ses fruits. Mais nous ne sommes toujours pas assez rapides, surtout dans le deuxième secteur où Ferrari est meilleur. Mais la course sera longue, tout est encore possible et j'ai hâte d'y être.
Et puis on en arrive maintenant, Louis, à l'homme qui était sorti du milieu de la cohue l'an dernier pour l'emporter à la surprise générale, un certain Daniel Ricciardo qui n'a pas son pareil effectivement pour profiter des circonstances de course comme il l'a fait en Chine. On peut dire qu'il est remonté comme une pendule, le Ricciardo, pour le moment.
Ah oui, il est chaud, Daniel Ricciardo, en effet. Daniel Ricciardo, c'est le spécialiste des remontées fantastiques. Il a remporté 6 courses dans sa carrière de pilote de Formule 1 et il n'est jamais parti dans aucune de ses victoires sur les 3 premières places. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a dû se bagarrer. L'année dernière, il partait 10e lors de sa victoire ici. Donc en effet, il sait profiter des circonstances de course. Il nous l'a encore prouvé il y a 15 jours en Chine où il avait avalé successivement Bottas, Raikkonen, Vettel, Hamilton pour remporter ce Grand Prix. Et puis il a un gros coup à jouer, Daniel Ricciardo, aussi pour marquer les esprits, pour se rendre indispensable dans une équipe de pointe la saison prochaine. Vous savez qu'il arrive en fin de contrat à l'issue de cette saison. On ne sait pas encore si Red Bull le conservera. On évoque des discussions avancées avec la Scuderia Ferrari. Mercedes continue de le surveiller du coin de l'œil. Donc c'est très important, plus que jamais, pour Daniel Ricciardo d'être performant, surtout en ce début de saison où est en train de se nouer son avenir.
Ben tout à fait, plus que jamais. Puis en plus, c'est un type extrêmement sympa. Je crois qu'il a vraiment pas d'ennemis dans le paddock. Et alors, ça prouve que c'est possible également, Adrien, d'être à la fois un pilote tranchant dans ses dépassements. Il l'a toujours été, vraiment imparable, je dirais même, jamais embarqué dans les coups tordus. Donc un pilote dangereux, hein, pour les adversaires. Et puis un bon esprit général.
Oui, c'est peut-être un des pilotes les plus complets. Daniel Ricciardo, il a à la fois la rapidité. Parfois peut-être un peu moins rapide que Verstappen sur un tour, même si hier il a fait le job, il a devancé le pilote hollandais, mais vraiment vraiment complet, constant, pas d'erreur, réfléchi, la tête est bien faite,
opportuniste,
mais ça c'est les pilotes intelligents qui sont opportunistes et qui arrivent à comme ça se tirer de belles situations et voilà, saisir les opportunités comme il le fait à chaque fois et j'ai envie de dire aujourd'hui à Bakou que la Red Bull sera peut-être la voiture à surveiller malgré le fait de devoir dépasser sur la piste, ce qui sera peut-être un peu compliqué avec le moteur Renault par rapport au Mercedes et au Ferrari,
mais
avec le DRS, ouais. Et cette longue ligne droite, sait-on jamais, sur des longs relais, c'est eux qui avaient la meilleure performance depuis le début du week-end en essai libre et voilà, on sait que Daniel est très constant en course avec Max Verstappen qui va aussi attaquer très fort, même si lui doit un peu revenir peut-être en arrière par rapport à ses attaques.
Il faut qu'il termine les courses proprement.
Exactement.
On va dire ça comme ça. Alors, on va l'écouter, Daniel Ricciardo, justement, au micro de Louis Amar. Il savait pas trop ce qu'il devait attendre, effectivement, de ce circuit et de la performance de sa monoplace. On l'écoute.
Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On était rapide en essai, mais on sait bien que le samedi, Ferrari et Mercedes gagnaient un peu de vitesse. Ça a encore été le cas. Et puis la dernière séance avant la qualif a été perturbée par des drapeaux jaunes, le drapeau rouge, donc on est arrivé sans être complètement prêt. Alors je suis content de cette quatrième place, je suis en deuxième ligne, c'est suffisamment proche pour pouvoir me battre.
On peut lui faire confiance, Louis, il saura se battre. Hein. De toute façon, Ricciardo, il est en phase de reconduction de contrat, et c'est marrant, il y a des pilotes que ça surmotive aussi, on l'a vu dans le passé, et j'oserais dire même pour Raikkonen, hein, puisqu'à chaque fois qu'on l'a donné un peu partant de chez Ferrari, hop, il a réalisé des belles performances et il a signé pour une année supplémentaire.
Exactement, il y a deux choses qui sont inaltérables chez Daniel Ricciardo, ce sont son sourire et son tempérament offensif, son tempérament d'attaquant qu'il prouve à chaque fois. Donc évidemment, on peut compter sur lui pour être de nouveau l'un des grands animateurs de cette course. Ça sera certes compliqué avec son moteur Renault, vous l'avez dit messieurs, de dépasser dans les deux grandes lignes droites de ce circuit. En revanche, l'agilité de sa monoplace et son talent d'équilibriste devraient lui permettre de bien figurer dans un deuxième secteur très sinueux.
Ah oui, puis ça suffit pour gagner des grands prix, hein. On l'a dit à plusieurs reprises, même si effectivement les déclaration un peu acerbe de la part de Christian Horner, le patron de l'équipe Red Bull, à l'adresse de son motoriste français, commence à peser. Tu voulais rajouter quelque chose?
D'ailleurs, ouais. Jean-Luc, juste un mot à propos de Red Bull Renault, ça c'est une information qui m'est parvenue ce matin. Sachez que Renault a octroyé à Red Bull 15 jours de délai supplémentaire pour décider de continuer ou non l'aventure. Donc Red Bull avait jusqu'au 15 mai initialement pour choisir de poursuivre avec le moteur Renault ou de passer, pourquoi pas, chez Honda pour la saison prochaine.
C'est bon signe.
A été
repoussé au 31 mai.
C'est bon signe pour Renault, ça.
On aura deux grands prix supplémentaires, donc Barcelone et Monaco, hein, pour être clair, avant d'avoir la décision. On va faire un saut, si vous le voulez bien, avant de passer aux pilotes français, naturellement, du côté du top 14. C'est du rugby, évidemment. C'est l'Union Bordeaux-Bègles Racing et c'est Nico Paolorsi. Salut Nico. C'est
salut
la mi-temps, hein, je crois.
Salut à tous. Ouais, c'est la mi-temps et c'est le Racing qui mène 6-0, deux pénalités de Dan Carter. Alors, je sais que dans le sport automobile, vous aimez bien purger les systèmes hydrauliques, tout ça. Et ben là, on n'en est pas loin de la purge. On n'en est vraiment pas loin de la purge parce que c'est un match très, très compliqué pour les, pour les spectateurs qui sont à Charmont-Delmas. Non, c'est vraiment pas un bon match de rugby. 6-0 pour le Racing.
Allez, ça va venir. On y croit toujours. En deuxième mi-temps, ils sont en train de se remonter, là. On va y aller. Nous, la deuxième mi-temps, on l'aborde tout de suite. En tout cas, on continue avec la grille. Vous le savez, première ligne, Vettel, Hamilton, on les a entendus. Bottas, Ricardo, deuxième ligne. Verstappen et Raikkonen sont sur la troisième et sur la quatrième, on a le plaisir de découvrir un pilote qu'on va écouter tout de suite au micro de Louis Amar. C'est un pilote français, il s'appelle Esteban Ocon.
Ouais, ça fait vraiment plaisir. On a vraiment eu du mal, voilà, en début de saison de revenir au même niveau de performance que l'année dernière. Et là, voilà, on est de retour, donc on est premier des autres, ce qui est top. À partir septième, c'est voilà de grosses possibilités pour demain de marquer de gros points. Donc voilà, très content du boulot de l'équipe. Tranquillement, on arrive voilà à rattraper ce qui allait pas au début d'année. On va y arriver, voilà, à revenir la quatrième force du plateau, mais voilà, ça prendra du temps. Et aujourd'hui, on a réussi à revenir. Il faut qu'on continue maintenant.
Et oui, premier des autres, Pierre Amiche en parlait à l'instant, effectivement, Adrien. Alors ça veut dire premier. Derrière les trois grosses équipes qui sont évidemment Ferrari, Mercedes et Red Bull Renault, et c'est la place qu'occupait Force India la saison dernière encore de manière brillante, mais faut bien reconnaître que depuis le début de la saison c'était pas ça, hein.
C'était pas le cas et ce n'est pas encore tout à fait le cas, comme il le dit aussi Esteban dans ses propos. Il va falloir attendre d'autres grands prix et rappeler aussi que ce circuit de Bakou semble vraiment correspondre à la monoplace, à cette Force India. C'est une voiture qui est très réussie au niveau de son châssis, toujours qui a peu de traînée aérodynamique, un bon moteur, donc sur ce circuit où un peu spécial quelque part, elle est très performante. Maintenant, de là, voilà, il y a sûrement beaucoup d'améliorations depuis le début de la saison. C'est sûrement 50% du travail, mais il y a aussi 50% lié aux caractéristiques de ce circuit. Donc, il va falloir continuer à bosser, mais Esteban le dit et en est conscient.
On a dit, j'ai lu ça quelque part, Louis, que la voiture qu'on aligne là au Grand Prix d'Azerbaïdjan pour le quatrième, c'est celle qu'on aurait dû avoir à la sortie de l'hiver. Hein. C'est ce que tu as entendu également du côté de chez Force
India. Oui, absolument. Absolument, c'est le moment où la monoplace est au maximum de ce que l'on espérait pour le début de saison. Ça a pris un petit peu de retard pour la livrer, mais en effet là Force India est satisfait de cette voiture, sachant qu'en plus Mercedes a donné l'autorisation à la fois à son équipe mais aussi à ses clients d'augmenter un petit peu la puissance du moteur. Évidemment, dans les deux longues lignes droites, ça a son importance et c'est pour cela qu'on retrouve Esteban Ocon et Sergio Perez aux premières loges, mais aussi Lance Stroll et Sergei Sirotkin, les pilotes Williams, dont c'est une sorte de résurrection ce week-end. Esteban Ocon, vous l'avez entendu, il était ravi. Il a suffi de 24 petits millièmes pour lui donner le sourire. 24 millièmes, c'est
Pérez.
Le temps. Exactement. C'est l'avance qu'il a compté hier sur son équipier Sergio Perez. Ça n'est pas neutre parce que ça veut dire que Ocon partira devant le Mexicain, qu'il partira également du bon côté de la piste, sur le côté droit, du côté de la trajectoire. Et puis ça veut dire aussi que comme les deux équipiers sont dans une position beaucoup plus délicate que l'an dernier au classement général provisoire du championnat du monde, ils devront faire attention à ne pas se bagarrer en course comme l'an dernier. Et peut-être que c'est à Ocon, sans doute même que c'est à Ocon que priorité sera donnée vu qu'il part devant Sergio Perez.
Oui, puis il a marqué un point alors que Perez zéro, hein, pour le moment. Alors on parlait de cette quatrième ligne effectivement du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, entièrement aux mains de Force India avec Ocon et Perez. La cinquième, c'est Carlos Sainz avec sa Renault devant Lance Stroll, performant aussi avec la Williams, même si on attendait mieux, à moteur Mercedes. On trouve ensuite Sirotkin et Alonso, la première des McLaren. Et puis on va plus loin, Charles Leclerc qui a réalisé une très très belle performance. Mais on va d'abord commencer par vous parler, vous savez que Leclerc est monégasque, de Pierre Gasly, qu'on va écouter au micro de Louis Amar. Il s'est fait une énorme chaleur et vraiment, on a eu très très peur pour lui. On l'écoute.
Grosse frayeur, parce que j'étais derrière Brandon qui était aussi dans un tour rapide. Et au virage numéro 15, il a ralenti parce qu'il a touché le mur et du coup il a eu une crevaison. Et le problème, c'est qu'il était en plein milieu de la trajectoire, donc il devait être à 100 km/h. Je suis arrivé à 300 et puis il allait à gauche, à droite, donc j'avais pas trop où aller. Au dernier moment, je suis allé vers la droite et je l'ai évité, mais je pensais que j'allais m'envoler sur lui, quoi.
Oui, Adrien, c'est la pire des situations, ça, hein, parce qu'effectivement, pas de visibilité pour le pilote, même s'il l'avait aperçu de très loin, mais il devait penser qu'il roulait beaucoup plus vite. À différentiel de plus de 200 km/h, ça a conduit à des drames, malheureusement.
Oui, c'est très compliqué. En fait, par rapport à hier, on n'était pas au courant hier que Brendon Hartley avait crevé à ce moment-là et était lui-même dans un tour rapide. Donc la situation est un peu différente et un peu plus compliquée pour Brendon qui.
Mais il a reconnu que c'était de sa faute.
Il a reconnu que c'était complètement de sa faute, mais il était sûrement en train de gérer d'autres problèmes et la seule erreur, enfin la vraie erreur qu'il a faite, c'est de changer de direction quand on est comme ça à 100 km/h sur un circuit avec des voitures qui déboule à plus de 300, c'est la dernière chose à faire. Il vaut mieux être sur la trajectoire et ne pas bouger que de bouger au dernier moment. Et c'est ça qui a créé le doute dans la tête de Pierre et pour l'éviter.
Savoir s'il va aller à droite ou à gauche. Heureusement, il a choisi la droite.
Et effectivement, au dernier moment, il a réussi à l'éviter, mais c'était très très chaud. On est passé tout près de la correctionnelle.
Allez, comme le temps file, on y reviendra évidemment tout à l'heure. On va parler de Charles Leclerc. Alors, il a signé un exploit. Moi, j'y vais carrément avec sa modeste Alfa Romeo Sauber à moteur Ferrari. 13e temps, juste derrière le double champion du monde Fernando Alonso et sa McLaren. On l'écoute, Charles Leclerc.
Bah, ça fait du bien. C'est vrai que les trois premières qualifs, j'avais pas réussi à mettre tout ensemble. Et là, je suis quand même beaucoup plus content de mes tours. Malheureusement, en Q2, on n'a pas réussi à avoir une Aspi qui aurait peut-être pu nous aider un petit peu à gagner une ou deux places. Bon, la Q3 était bien sûr pas possible, mais bon, c'est vrai que ça aurait été bien d'être 13 ou 12. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit satisfait d'aujourd'hui.
Oui, un mot, Louis, effectivement, il peut l'être, hein, Charles, parce que là, je le dis et je pèse mes mots, c'est un réel exploit de se qualifier 13e dans la roue d'un double champion du monde et devant Nico Hülkenberg, par exemple.
Oui, alors Nico Hülkenberg, il a été pénalisé pour un changement de boîte de vitesse. Donc c'est vrai qu'il va partir sur la grille devant Nico Hülkenberg, mais il a quand même signé un moins bon temps. Il n'en demeure pas moins que c'est la première Q2 de la carrière en F1 de Charles Leclerc sur un circuit qui est extrêmement particulier pour lui, parce que l'année dernière, il avait remporté la première course de Formule 2 ici. Il avait fait pole, meilleur temps, deuxième place lors de la deuxième course, et ça suivait de quelques jours le décès de son papa.
Oui.
Donc c'est un grand prix qui tient particulièrement à cœur à Charles Leclerc, et on peut compter sur lui pour être l'un des grands animateurs de cette course tout à l'heure.
Allez, un mot de Romain Grosjean pour terminer, c'est le cas de le dire, Adrien, dernier des qualifs avec des problèmes apparemment de boîte de vitesse, hein. Il a tiré tout droit, puis des problèmes de frein, on l'a vu récurrent.
Oui, il a fait une première erreur en tirant tout droit en qualification. On sait que Romain est un gros freineur et apparemment ses problèmes de frein sont à nouveau présents sur sa Haas et c'est un début de saison très très difficile. On a même vu Romain hier quelques photos de Romain en pleurs et il vit un début de saison compliqué. Espérons pour lui que la roue tourne, mais avec les performances de Magnussen et tout ça, c'est dur.
Et oui, ce que j'allais dire, hein, Magnussen, il a totalisé déjà 11 points. Il est 10e au championnat du monde. On va l'écouter, Romain Grosjean, au micro de Louis Hamar.
J'ai bloqué les roues, donc j'ai été droit sur l'échappatoire au virage 3. Et en reculant, tout a cassé et on a perdu complètement la pression hydraulique. Donc impossible de rechanger les rapports, bloqué au point mort. Les deux virages que j'ai fait, je me sentais bien dans la voiture. J'avais confiance. C'est juste dommage que j'aille tout droit au virage 3. Le vent a changé un peu. Bon, peut-être que ça a joué sur un facteur. Maintenant, voilà, je pense qu'on n'est pas à notre place et j'espère que demain, les choses iront mieux.
Allez, voilà, c'était une belle page de F1. Merci beaucoup, Louis. Tu restes avec nous, évidemment, puisqu'on se retrouve dans une petite demi-heure, à peine avant le départ de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Ce sera à 14h10 et ce sera en direct sur RMC. On va vous parler maintenant d'un événement important, le 50e anniversaire du magazine Échappement. Vous êtes dans Motors sur RMC. Vous restez avec nous.
RMC Motors. RMC Motors avec Motorsport TV. Jean Lecroix.
Et oui, la deuxième partie de Motor, je vous l'ai dit, on va célébrer le cinquantenaire du magazine Échappement, mais qui reste toujours jeune, c'est le cas de le dire, et on va faire ça dans le briefing.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droitier, 320.
Le briefing.
Et ça tombe bien, c'est du rallye que vous avez entendu dans ce petit jingle, effectivement, et du rallye, on va en parler pas mal. Et pour célébrer les 50 ans de ce magazine important dans le monde de la presse française et du sport automobile, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Hommel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Je te remercie beaucoup de prendre quelques minutes de ton temps, d'autant que, écoute, ça tombe bien, puisque tu me l'as avoué hein, tout à l'heure hors antenne, tu as Tomblaine, près de Nancy, d'où tu es originaire et d'où tu as lancé le magazine.
Oui, c'est un petit peu un hasard, en fait, de vous retrouver à Tomblaine. Il y a 50 ans, je lançais ce magazine ici, dans dans la maison familiale, quoi.
Eh oui, c'est une magnifique histoire, hein, Michel. D'abord, célébrer quand même le cinquantenaire d'un magazine de sport automobile référent, j'allais dire. Donc, on était en 1968, pour être clair. Et à l'époque, tu étais pilote dans la Coupe Gordini, c'est bien ça?
Oui, j'ai fait 3 ans de Coupe Eris-Gordini. Et en 68, je faisais ma 3e année.
Alors, qu'est-ce qui t'a incité à lancer ce magazine? Si j'ai bien compris, il y avait bien évidemment d'autres magazines qui existaient à l'époque, mais je crois que tu as estimé qu'on ne traitait pas assez, justement, du sport automobile en France?
Alors, donc, il y avait vraiment un manque. Donc, la Coupe Gordini était l'élément important au niveau... la Coupe fédérait toutes les actions qui visaient à développer le sport automobile, et c'était la première fois qu'en France, un constructeur animait et lançait donc une organisation pour faire plaisir aux moins nantis. Je faisais partie des moins nantis et donc oui. J'ai pu participer à la Coupe Eris-Gordini.
Eh oui, qui était une magnifique formule de promotion, hein, on s'en souvient tous, parce que enfin quand on est assez âgé évidemment et qu'on a eu le plaisir de regarder les pelotons animés, le mot était faible, hein, parce que Michel, je crois que s'il y avait eu des directions de course comme en Formule 1, vous n'auriez pas été nombreux à terminer les courses avec les pénalités.
Ah, c'est sûr, on a eu surtout Reims et Rouen, ouais. Des circuits prestigieux où ça allait très vite, et disons que ça allait très vite et c'était dangereux.
Ouais, c'était dangereux.
Mais on flirtait avec le risque et on avait 20 ans, 22 ans, et donc cet âge, à ce moment de la vie, on a un petit degré d'inconscience.
Et il en faut, c'est ça le sport automobile, hein, aussi, oui, c'est ça, oui, le plaisir, oui, c'est ça l'engagement. Alors je crois que dans les premiers numéros, je me suis laissé dire par Georges Clavel, le rédacteur en chef qui nous écoute et que je salue également chaleureusement, que Échappement, au tout début, il y avait une petite page touristique, même cuisine, m'a-t-on dit, visite de la France, que tu aimes beaucoup. C'est une autre de tes facettes et de tes passions, Michel.
Oui, il est vrai que donc pour créer ce journal et avoir l'idée de créer Échappement, il fallait avoir deux éléments. La course amateur qui arrivait en France, et puis apprécier le goût, avoir le goût de la chose imprimée. Il se trouve que mon premier métier a été la création d'une imprimerie à Nancy. Mmh. J'avais 22 ans. Nous avons acheté avec mon associé des machines d'occasion. On a fait du papier en tête, des programmes, des prospectus et tout. Et c'est la conjonction de ces deux choses qui m'a donné envie de lancer un magazine. Et ce magazine, ça a été Échappement. Échappement, double signification. L'automobile, le sport automobile, comme les pots d'échappement.
Et oui.
Et on évoquait l'échappement, l'évasion.
Bien sûr.
Les promenades dans les Vosges ou le côté touristique.
D'accord, ben oui. Double facette, bon, on a gardé que le côté mécanique, hein, assez rapidement.
Alors, oui. dès le numéro 5, on a mis le cap sur le sport automobile, amateur, bien sûr, et on s'est retrouvé avec d'autres magazines qui venaient de commencer à être édités par Michel Delannoy et Jean-Claude Marino. Mmh. Il s'agissait de Scratch et pour la région sud, et d'autoracing dans la région nord. Donc nous étions 3 compétiteurs en lice. Et donc la force de
vous battre,
de vous disputer, oui, et très amicalement.
oui, bien sûr.
La compétition était quand même sévère entre nous. On s'est regroupé et donc on a fait un seul magazine.
Ben voilà, c'était la bonne idée. Alors pour ce numéro du cinquantenaire, donc 50 ans d'échappement, on le rappelle, lancé en 1968, vous avez, avec Georges Clavel, demandé à Sébastien Loeb, qui a accepté volontiers d'être le rédacteur-chef exceptionnel, et il s'est prêté au jeu, hein, donc effectivement, vous l'avez suivi depuis ses débuts en 1991, Michel, dans les colonnes d'échappement.
Oui, puisqu'il a été d'ailleurs pilote d'échappement.
Pilote d'échappement, oui.
L'espoir de l'année.
Ouais.
Comme 25 autres, et donc il a toujours joué le jeu. À tous les moments importants de notre vie professionnelle, il a été là, et encore une fois, il s'est prêté au jeu de la rédaction en chef, avec la complicité de toute l'équipe, et donc je découvre le magazine, je l'ai acheté ce matin, et j'ai commencé à le lire, et c'est vrai que c'est vraiment une réussite.
Ah bah oui, tu peux être fier parce que 50 ans, et puis on sait que la presse magazine a du mal en France aujourd'hui. Hein.
Oui, il a du mal, c'est vrai, il souffre, toute la presse souffre.
Toute la presse.
Mais aujourd'hui, donc, le cap est pris. Disons que le magazine se tourne vraiment vers une formule complètement bien différente. Elle abandonnera donc peu à peu le compte-rendu, le résultat et tout. Et donc on ira de plus en plus vers des papiers magazines, des analyses et...
Bien sûr.
On gardera le cap, toujours la défense du sport automobile amateur, bien sûr.
Et il le faut, il est tellement attaqué, surtout dans ce pays, hein, je le répète souvent. Heureusement, il y a des défenseurs du sport automobile en France et tu en fais partie, Michel, avec ton groupe. On rappelle que tu édites également Auto Hebdo, hein, bien évidemment. Alors, dans ce 50e... Dans ce numéro anniversaire, je vais y arriver, du 50e anniversaire d'échappement, il y a également une interview exclusive justement de Sébastien Loeb qui réagit aux différents sujets. Il est présent lui aussi avec le Loeb Racing. Il est passé de l'autre côté de la barrière. Bon, il tient toujours les volants, on le sait bien, mais il est également patron d'une équipe.
Il est patron d'une équipe et donc il était bien qu'il vive cette facette du sport automobile. Et tout comme l'a fait Enzo Ferrari, qui a été pilote, ingénieur, chef d'équipe, je souhaite à Sébastien de construire des voitures maintenant.
Ah oui, et tu l'as fait aussi, Michel, avec les barquettes, les berlinettes Hommel. Oui,
on a été poussé un peu par les événements, suite à un déjeuner avec notre ami Jean-Charles Redelet. On constatait que la maison Renault avait... un petit peu dénaturé l'esprit alpine, mais je me dépêche de dire qu'ils ont bien rattrapé les choses et qu'ils ont sorti une merveilleuse voiture. Je l'attends d'ailleurs avec impatience.
Eh ben écoute, je pense que tu auras du plaisir au volant parce que tu en conserves. Dernier mot, je crois qu'il y a un cadeau avec ce magazine du cinquantenaire d'échappement, il y a un supplément de 80 pages sur le championnat de France des rallyes, effectivement.
Oui, donc ça permet de bien vivre l'évolution du sport automobile, de voir un petit peu l'évolution des voitures, des pilotes, des budgets, et disons qu'on s'est un petit peu éloigné d'un sport automobile plus tranquille au niveau des budgets.
C'est clair.
Donc le sport automobile est toujours là et il y a toujours des disciplines possibles où on peut se faire plaisir. Et donc courir pour pas trop cher.
Exactement. Et il y a également l'essai, hein, et le développement, tout un papier sur la jeunesse. Tu parlais de papier magazine de la Citroën C3 R5 justement, avec Johan Bonato notamment, qui est collaborateur également d'échappement, et Stéphane Lefebvre, le pilote officiel. Je te remercie beaucoup, Michel, d'avoir été avec moi en direct dans Motors aujourd'hui pour parler de ce cinquantenaire, j'imagine émouvant, d'autant que je l'ai dit, hein, tu es à Tomblaine, dans ton village.
Oui, c'est près un carrefour. De Nancy. Je retrouve ma maman qui a 96 ans.
Ah bah écoute, tu la salues chaleureusement de notre part.
Et elle m'a vu d'une manière elle était peu encourageante quand j'ai fait mes premières courses en 1993. Mais donc je le faisais en douce à l'époque. On se le rappelle gentiment aujourd'hui.
Eh bah c'est formidable. Écoute, passe un très bon séjour avec elle là-bas et sois fier de ton parcours, Michel, à tout niveau. Okay. C'est vrai que c'est toujours
merci
plaisir.
Pour tout, hein.
Je t'en prie, avec
merci
plaisir,
Michel.
Au revoir,
Michel. Voilà, c'était Michel Hommel, donc éditeur et défenseur du sport automobile en France. Et comme je l'ai dit, il faut du courage pour le faire. Alors, est-ce qu'il faut du courage, Nico Paolorsi, pour assister à la deuxième mi-temps de ce Union Bordeaux-Bègles Racing?
Ah, il en faut beaucoup. Non, ça va un petit peu mieux. Il y a eu un petit temps fort pour l'UBB. Le score 6-3 pour le Racing 92. C'est reparti depuis 5 minutes dans cette deuxième période. Bon, pas encore de grandes envolées, mais au moins, il y a des intentions du côté des Bordelais. 6-3 pour le Racing, la 46e.
Allez, on y croit, effectivement. Je le sens bien, cette deuxième mi-temps. Elle va être belle comme ce Grand Prix auquel nous allons assister dans 30 minutes maintenant. Ce sera sur RMC plus que jamais, la radio de la F1. Vous êtes dans Motors, on va aborder la troisième partie. Il s'agit de Radio Paddock, vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Allez, on est toujours dans Motors, dans la dernière ligne droite, vous le savez, et qui dit dernière ligne droite, on va aborder, je vous l'ai dit, le rallye, mais aussi la moto. On va parler un tout petit peu de Formule 1, on va parler du Grand Prix de France, et on va parler des 24 heures du Mans, c'est bien évidemment dans Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et c'est le bondissant Lucas Vinoy que j'ai le plaisir d'accueillir. Adrien est toujours là. Salut Lucas.
Salut Jean-Luc, salut Adrien. Salut.
Bon, tu es en train de toi aussi de faire ton tour de chauffe pour la F1 puisque hein, on l'a annoncé, tu vas succéder et vous allez être ensemble avec Louis dans quelques grands prix là.
Je fais doucement chauffer les pneumatiques, je les fais monter en température. J'espère que j'aurai un peu plus de succès qu'Hamilton en ce moment pour trouver la fenêtre. Non, on va passer au rallye, c'est la cinquième manche du championnat du monde des rallyes. Ça se tient en Argentine et puis c'est un petit peu compliqué pour Sébastien Ogier puisque le leader et le large leader c'est Ott Tanak sur sa Toyota.
Oui, alors le problème, on le sait, il l'a souligné, il veut pas toujours. C'est vrai que c'est un peu récurrent et un peu fatigant de parler de ça, mais c'est l'ordre des départs, tu le sais bien, puisque il est largement leader du championnat du monde après ses 3 victoires sur les 4 premiers grands prix. Donc effectivement, il a pour mission de balayer la piste. Tiens, un mot Adrien d'ailleurs là-dessus. Toi, t'as fait du rallye aussi pour ton plaisir. Alors, je sais que c'est un problème qui est quasi insoluble, hein, parce qu'effectivement, auparavant, c'était les 2 premières journées. Maintenant, c'est uniquement la première journée où le leader balaye la piste pour les autres. Là, il semble que ce soit un handicap difficilement surmontable, même quand on a le talent d'Ogier Ingrassia.
Oui, je crois que malheureusement ça fait partie du rallye, en tout cas du règlement encore cette année. Sébastien se bat pour que ça change. Mais bon, moi j'ai fait que du rallye sur asphalte.
Ouais, là, il y avait pas, balayer tranquille.
Voilà. Même s'il y avait des soucis, puisque
ah oui, des projections pour le coup de gravier.
Oui, j'étais en 2 roues motrices et les 4 roues motrices passaient avant nous et nous ramenaient. Voilà, elle roulait dans les cordes et nous ramenait plein de gravier au milieu de la piste, non, pas du circuit, de la route.
Alors d'un autre côté, on va dire un truc, Lucas, c'est ça le rallye aussi. Hein. Des fois, c'est comme il y a tout un tas de surfaces différentes. Bah parfois, c'est pas un handicap quand c'est du goudron.
Du goudron.
Et ça peut même être un avantage, comme le vient de le souligner Adrien. Et puis parfois, c'est un handicap.
Bon après, là, Ogier ne se cache pas totalement derrière ça, hein, puisque l'Argentine, l'Argentine, c'est un rallye qui est plutôt cassant, avec beaucoup de pierres. Oui. Et il s'est dit pas très très à l'aise hein, par rapport à ses concurrents. Alors il préfère assurer le coup. Pour l'instant, on sait qu'il a une place de leader au championnat du monde actuel à défendre. Il est quatrième actuellement du général. Donc, pour le moment, il préfère, ne se sentant pas trop à l'aise, ne pas prendre de risques, plutôt gérer et puis marquer des points quand même qui seront toujours importants en fin de saison.
Bien sûr. Alors on rappelle que devant lui il y a aussi Thierry Neuville qui est son principal concurrent pour être clair. Hein. Thierry Neuville qui parce que ça va être une bagarre entre les deux comme c'était déjà le cas l'an dernier. Et puis Dani Sordo. Alors Sordo, d'habitude, on le trouve pas toujours à son avantage sur de la terre justement. C'est plutôt un pilote de goudron normalement.
Normalement oui. Et puis il a été recruté en tout cas par Hyundai pour ça, hein, pour surtout faire les rallyes sur asphalte. Mais il s'est montré plutôt à son aise au Mexique et puis maintenant en Argentine. Donc Dani Sordo qui fait des progrès hein, malgré son âge quelque peu avancé maintenant puisque c'est quand même un pilote qui a de l'expérience. Mais il est toujours présent et il fait marquer des points pour Hyundai, ce qu'on lui demande.
C'est exactement
ce qu'on lui demande.
Effectivement. Alors, on aura, évidemment, il y a le décalage horaire. On aura le résultat ce soir, heure française, heure européenne.
Les spéciales commencent à 14h.
Ouais, on les aura plutôt vers 20h ou 21h. Voilà pour ce double verset. Donc, c'était le premier thème. Je crois que tu nous en as réservé d'autres.
Ben, il n'y a pas de MotoGP ce week-end, mais l'actu est toujours aussi brûlante et elle concerne notamment Johan Zarco qui aurait fait son choix donc de rester chez Tech 3. Mais donc, du coup, ce sera sur une machine autrichienne. Avec KTM.
Alors ça c'est une décision très importante parce qu'on sait qu'il était courtisé pratiquement par toutes les écuries du plateau. Alors on sait que effectivement Tech 3, cette équipe française d'Hervé Poncharal dans laquelle il officie actuellement avec une équipe satellite de Yamaha, on sait que à un moment effectivement Hervé Poncharal avait demandé à bénéficier d'une machine d'usine, d'une vraie machine d'usine pour Zarco. Apparemment Yamaha n'a pas voulu la fournir. On a compris qu'il s'en mordait un petit peu les doigts très probablement Lynn Jarvis le manager officiel de Yamaha parce que on a proposé pour l'an prochain mais c'est peut-être trop tard puisqu'entre-temps Tech 3 a dit Hervé Poncharal a dit j'ai eu une offre de KTM que je ne pouvais pas refuser. Donc l'équipe française va passer avec armes et bagages après plus de 18 ans de Yamaha chez KTM, le constructeur autrichien qui a gagné dans les autres catégories mais pas en MotoGP, on le sait pour le moment ils sont un peu loin d'ailleurs. Donc est-ce que dans ce contexte-là effectivement Adrien Johan a préféré rester au sein de cette équipe française dont il connaît bien tous les maintenant.
Je pense qu'il a ses raisons, Johan, parce que rester avec Tech 3 qui maîtrise maîtrisait parfaitement cette Yamaha, même si elle n'était pas complètement d'usine.
Ouais, il y a pas beaucoup de différence quand même, mais il y a un petit handicap.
Mais quelque part, c'est un risque pour, enfin, nous en regardant de l'extérieur, c'est un risque. Mais il est sûrement au courant de plein de choses. Oui. Et je pense que Hervé Poncharal a ses raisons aussi de passer chez KTM. Ça se rapprochera probablement d'une moto d'usine et un gros soutien des Autrichiens.
Là, c'est de carrément, KTM. Ce sera ouais. l'équipe d'usine. Voilà. Moi, si j'ai bien compris ce qui va se passer.
Oui, non, ça,
hein.
ça ouais. devrait être ouais. En effet l'équipe.
C'est eux qui géreront l'engagement. D'usine.
Ouais. Bien sûr. Après, il a peut-être la possibilité. On ne sait pas. On n'est pas dans le secret, mais d'aller aussi chez Honda. Chez mais Honda. Aller chez Honda, ça veut dire aller aux côtés de Marc Marquez. On sait que Marc Marquez c'est quand même le chouchou hein, de l'écurie Honda, un petit peu comme Alonso qui s'était frotté à Lewis Hamilton chez McLaren à l'époque.
C'est le taulier.
Et peut-être que Johann Zarco, il a un peu peur de ça. C'est possible aussi.
C'est possible aussi, tu as raison. Et puis on voit bien que Dani Pedrosa, malgré son talent, effectivement, n'existe pas trop aux côtés de Marc Marquez, qui est un ogre en plus, hein, qui est vraiment un type qui a un talent absolument exceptionnel. Donc c'est vrai que faire sa place, et Marquez est très jeune, il est plus jeune que Zarco, faut le rappeler en âge, hein, il a un an et demi de moins, donc effectivement c'est pas pour une succession, là ce serait une cohabitation à risque, ça peut peser.
En quelque sorte d'aller avec une KTM qui n'a encore rien prouvé en MotoGP, pour lui c'est tout bénef,
on part d'une feuille blanche,
il n'y a pas de ouais. pression, et c'est plus à la moto de prouver quelque chose que à Johann Zarco qui est lui déjà prouvé qu'il pouvait être très rapide et incroyable au guidon d'une Yamaha semi usine.
Absolument.
Par contre, s'il va avec la Honda aux côtés de Marc Marquez, bah là, c'est la pression est sur ses épaules et il peut facilement passer de héros à zéro en deux grands prix.
Tu as raison. D'autant que on le rappelle toujours, l'homme est primordial à moto, hein, vraiment dans le résultat là en MotoGP. Je crois qu'il faut l'outil, mais il faut surtout le pilote qui compte dans 80% du résultat. Allez, je me mouille. Alors, juste un élément. Suzuki lui avait fait une offre également, effectivement, pour remplacer, je crois, Iannone d'ailleurs. Et mais en fait, il l'a repoussé d'un revers. Pourquoi? Parce qu'il avait mené des essais pour Suzuki. Je crois qu'ils sont pas très très bien comportés avec Johan justement au moment de cette accession au MotoGP. Donc il a aussi de la mémoire Johan et l'offre Suzuki il l'a pas considéré.
Moi je crois que chez Suzuki en plus ils sont un peu spéciaux. J'ai discuté un peu avec Randy Dupunier qui a fait tout le développement de cette moto, qui a été pilote d'essai pour eux et des Japonais un peu compliqués à gérer. Je pense que chez KTM ça va être peut-être un autre état d'esprit et ouais.
C'est une marque autrichienne. Exactement. On rappelle. Alors, il restait Ducati. On l'a pas évoqué. On va en parler. On va en dire un mot.
Ouais, alors Ducati, c'est compliqué aussi.
C'est très compliqué parce qu'effectivement, le contrat de Dovizioso n'est pas reconduit pour le moment. Alors, il a eu une première offre qu'il a refusée, donc qui était pas assez parce qu'il y a une différence de prix. Et on sait que Jorge Lorenzo ne restera pas. Lui, on sait aussi son salaire, 12 millions de dollars carrément. Et vu les résultats, il faut dire assez limité pour être gentil et voire pitoyable. Il ne va pas rester au-delà de la saison. Donc, je ne sais pas où il va vraiment aller, mais bon. Donc, il y a une place chez Ducati, en tout état de cause, qui était à prendre potentiellement. Mais peut-être la Johan a dû considérer aussi que c'était, on entrait un peu dans un domaine difficile.
Ce qui est compliqué avec Ducati, c'est que, voilà, plusieurs pilotes de renom se sont crashés avec cette Ducati. Ça a été très compliqué pour Rossi, qui est resté 3 ans là-bas, qui a eu quasiment aucun résultat. Qui n'a jamais vraiment compris le fonctionnement de cette machine. Et là, pour l'instant, Lorenzo est en train de vivre actuellement la même chose. Hein. Ouais. Donc, c'est très compliqué. C'est une machine particulière. Voilà, les deux qui ont réussi à la dompter ces dernières années, c'est un certain Casey Stoner qui a pris sa retraite depuis, et puis Dovizioso, mais même si Dovizioso, pour l'instant, n'a pas réussi à être champion du monde avec.
Et non, toujours pas, effectivement. Le dernier, c'est Casey Stoner, comme tu le rappelais. D'autres sujets, peut-être, au sommaire de ce Radio Paddock.
Le Grand Prix de France, hein, c'est dans moins de 2 mois, maintenant.
La pression monte.
Ce sera une grande fête. On sait que l'asphalte a été refait sur ce circuit. Grande fête avant, pendant, et après, avec un concert particulier, avec un DJ de choix, est-ce que tu le connais?
Dis-moi son nom, je te dirai si je le connais déjà.
Tu le connais forcément, c'est David Guetta qui organisera le concert de clôture et je sais qu'Adrien sera aux premières loges pour se déhancher. Sûr.
Non, par contre, j'ai eu la chance de rouler sur le nouvel asphalte il y a quelques jours et faire des baptêmes pour des journalistes avec une Mégane RS 01 et c'est vrai que voilà, c'était déjà un billard, mais là c'est parfait pour accueillir les F1 et tout est prêt.
C'est pas pour le survendre, c'est un super tracé.
Non, c'est un super tracé.
Ça nous promet un bon Grand Prix de France effectivement à venir, et on le vivra évidemment, on le vivra toute la semaine sur RMC, la radio de la Formule 1, plus que jamais.
Il y avait aussi de la Formule 2 pour vous ravir, messieurs, c'était hier avec Jean-Éric Vergne qui s'est imposé pour la troisième fois cette saison, mais pour la première fois dans les rues de la capitale. Il conforte ainsi son avance au championnat. Est-ce que c'est bien parti pour Jean-Éric Vergne cette année pour aller chercher la couronne?
Ben, je crois effectivement qu'il a la bonne équipe aussi derrière lui, une Techita et son coéquipier André Lotterer qui était aussi troisième jusqu'à la fin de la course. Une voiture très équilibrée, un système de régénération d'énergie, de récupération d'énergie très très au point, et effectivement cette année tout semble lui sourire, et coup à coup ses adversaires s'auto-éliminent à des moments. Donc voilà, il fait un boulot très solide, et si rien ne se passe, enfin en tout cas si la roue ne tourne pas avant la fin de la saison, je crois qu'il reste trois courses, c'est bien parti pour jouer.
On peut pas dire que ce soit un grain de sable dans la mécanique là pour le coup pour l'électrique.
Oui, Jean-Éric Vergne qui était vraiment ravi une fois qu'il a passé la ligne hier, puisque s'imposer à domicile France, pour lui c'était quand même quelque chose d'important.
Une victoire exceptionnelle, victoire à la maison, c'est un peu le rêve de tout pilote qui roule sur ces terres. Donc voilà, l'an dernier j'ai manqué la victoire de peu, cette année je l'ai eu, donc je suis extrêmement extrêmement heureux, et les mots me manquent un peu pour l'instant.
Tu le disais donc, Adrien, 8 top 5 cette année pour Jean-Éric Vergne, 3 victoires, c'était les deux autres à Punta del Este et à Santiago, 31 points d'avance sur Sam Bird, donc il est quand même proche du couronnement.
Bah, c'est là, beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois, hein. Il faut pas faire un faux pas. Si son adversaire direct venait à s'imposer ou s'il avait un problème, ça ferait revenir l'adversaire dans les échappements. Ouais. Dans les échappements, il n'y en a pas.
Mais de Jean-Éric. Dans la pile électrique.
D'autant plus que les qualifications sont importantes en formule écrite, puisqu'elles valent pour 3 points. L'auteur de la pole marque 3 points.
Et puis on a du mal à les passer, on l'a bien vu hier, ça a été une procession. Hein. De toute façon, le premier était premier, le deuxième, deuxième, et le troisième, troisième, en gros.
Oui, jusqu'à la fin. Di Grassi est un peu remonté, Lotterer a eu un problème. Et
parce qu'il a eu un problème d'alimentation, justement,
souvent,
il n'a pas pu aller au bout de la course.
Mais souvent, ce sont des dépassements un peu artificiels à cause ou grâce
au manque d'énergie,
à cette récupération d'énergie. Et c'est un sport pour moi différent de la Formule 1. C'est peut-être un sport, mais différent.
Et justement, est-ce que le problème du dépassement occasionne peut-être un autre problème, celui de Lucas Di Grassi, qui fait des dépassements, qui a des tentatives en tout cas de dépassement plutôt viril, puisque c'est peut-être la seule manière de passer aujourd'hui, de pousser un peu des blocs passes comme en motocross, et il se fait souvent réprimander par les autres pilotes. On sait qu'il a pas forcément une super réputation. Est-ce que c'est pas inévitable quand vous voulez performer en Formule E et que vous ne partez pas devant?
Comme Adrien l'a évoqué, bon, de toute façon, ce sont des petits circuits, hein. 900 km, ça n'existe pas dans d'autres disciplines. C'est un circuit de karting ou un grand circuit de karting, on va dire.
Très grand circuit de karting.
Oui, non, mais avec effectivement des trottoirs et des murs de béton. Donc effectivement, si on veut passer, il y a qu'une solution. Parfois, il faut donner des coups de roue. Alors, ça rend pas très sympathique. Effectivement, il y a pas de. Ou alors, il faut gérer son énergie, effectivement, puisqu'on sait que c'est un élément déterminant du résultat.
On prend quand même moins de risques à donner des coups de roue à 170 qu'à 300.
Oui, c'est clair.
Il y a aussi les 24 heures du Mans, c'est bientôt aussi, dans moins d'un mois. Maintenant, les 24 heures du Mans, dans un peu plus d'un mois.
Ce sera une semaine avant le Grand Prix de France.
Un peu plus d'un mois, avec un plateau qui se garnit de plus en plus, puisque Jenson Button fera aussi partie de la fête en LMP1. Alors, il sera peut-être à la bataille avec un certain Fernando Alonso, on se rappelle, hein, son ancien équipier chez McLaren, Button, qui sera dans l'écurie du SMP Racing.
Oui, bah c'est une super nouvelle, de toute façon, pour l'endurance et pour les 24 heures du Mans. Alors, je sais qu'il ne pourra pas rouler à Spa, Spa-Francorchamps, pour l'épreuve préalable aux 24 heures du Mans, parce qu'il sera, il s'est déjà engagé dans le Super GT japonais, où il brille d'ailleurs, je crois, il fait des très beaux résultats. Donc, effectivement, c'est courageux de sa part, et ça veut dire que il a toujours envie. C'est un gentleman en plus, Button, c'est vraiment un type champion du monde, faut-il le rappeler, en 2009 pour l'équipe Brown, après avoir piloté pour Honda. Bah c'est un bel apport, hein. Effectivement, avoir Fernando Alonso, double champion du monde chez Toyota, lui aussi qui est maintenant, on a l'impression, presque plus motivé par une victoire en 24 heures du Mans et aux 500 miles d'Indianapolis. Alors, il pourra pas rouler aux 500 miles cette année comme il l'avait fait l'an dernier, puisqu'il a pas son bon de sortie de la part de McLaren, mais moi je me demande si le bon de sortie va pas tarder à l'avoir pour de bon, parce que si la McLaren continue à faire des performances aussi limitées, on va dire, je pense que ça va pas l'amuser très longtemps, hein. Fernando Alonso, c'est un winner, c'est un gagneur, et là il va avoir du mal. En tout cas, beau plateau pour les 24 heures du Mans, et c'est vrai qu'on peut que s'en réjouir.
jouer.
Jenson Button qui a annoncé vouloir concourir pour la victoire. On sait que ce sera difficile puisqu'il y a deux Toyota hybrides. Lui n'est pas en hybride, mais il a annoncé qu'il voulait aller chercher la gagne. Donc peut-être une belle lutte en perspective si Toyota n'est pas trop loin de vous.
Effectivement, une belle lutte. On l'espère en tout cas parce que les Toyota sont les seules machines hybrides restant sur le plateau. Merci beaucoup Lucas pour ce Radio Paddock. Mais Adrien, on se retrouve dans un instant. Tu ne bouges pas. On va faire un saut du côté du rugby, voir où on en est entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing avec Nico Paolorsi.
Il y a eu un essai, alléluia, 58e minute de jeu, un essai inscrit en bout de ligne par Ludou Pichot qui a profité d'une passe déviée par Baptiste Serin. Le score 13-3 pour le Racing 92, il reste 22 minutes.
Merci beaucoup Nico. Et tout de suite je passe le volant, mais on va pas s'éloigner beaucoup.
Non, tu gardes le volant. Attends, tu passes place passager, c'est ça?
Ouais, c'est bon. Oui, en quelque sorte.
Il y a Adrien Tambay, il passe derrière.
Copilote. Ouais, il va nous raconter des histoires.